Imaginez un monde parfait. Pas comme celui d'aujourd'hui, mais un monde nouveau, idéal à tous égards. Si vous pouviez refaire le monde, qu'est-ce que vous changeriez? Peut-être élimineriez-vous les divisions politiques qui affaiblissent les nations. Vous vous débarrasseriez sans doute de la corruption, des scandales et des mensonges qui affligent tellement notre société. Peut-être réformeriez-vous le système de justice en établissant de nouvelles lois, des lois justes et équitables, protégeant les enfants à naître et ne légalisant pas l'immoralité. Vous changeriez sans doute les règles qui avantagent les riches et les puissants. Tous seraient vraiment égaux devant la loi. Vous feriez aussi disparaître la violence et la guerre. Fini les écoles militaires, où l'on apprend l'art et la science de la guerre. Fini aussi la violence et l'anarchie dans les rues. Est-ce possible? Ou si ce n'est qu'un rêve? En regardant la société actuelle, en lisant la une des journaux et en voyant les dernières vidéos mises en ligne, vous pourriez plutôt conclure que l'espoir d'un monde parfait est complètement irréaliste. Toutefois, le monde idéal que je viens de décrire est justement ce que prédit la Bible de manière très détaillée. Et cela n'est pas trop beau pour être vrai. Jetons un coup d'œil à la Bible pour avoir un aperçu du brillant avenir qui nous est réservé. Oui, les prochaines années seront difficiles. Mais après, quelque chose de merveilleux nous attend, car un monde meilleur, juste et pacifique sera établi ici même, sur la Terre. Comment pouvons-nous en être si certains? Restez à l'écoute. Salut à vous. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans l'ancienne nation de Juda, vivait un prophète nommé Ésaïe. Cet homme s'est vu confier la tâche de consigner les visions prophétiques que Dieu lui a données dans un livre qui porte son nom et qui fait partie de l'Ancien Testament. Une grande partie de ce livre prédit la venue du Messie et son règne glorieux de 1000 ans sur terre, le millénium. Il est écrit dans Ésaïe 2, versets 1 et 2, « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps. » L'expression « dans la suite des temps » se réfère à une époque où Jésus-Christ reviendra sur la terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Or, la suite des temps dont il est ici question concerne justement notre temps, l'époque précise où nous vivons, et le retour de Jésus-Christ approche. À quoi ressemblera ce millénaire? Nous examinerons ensemble trois éléments caractéristiques de ce monde nouveau. Des dirigeants, animés de bonté et de droiture, feront respecter des lois justes et équitables. Ils établiront une paix réelle et durable. Des dirigeants faisant preuve de bonté et de droiture. En effet, par la volonté de Dieu, des dirigeants pleins de bonté et de droiture administreront un gouvernement mondial sous la direction de Jésus-Christ. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible utilise souvent des symboles pour représenter la réalité. Dans ce langage imagé, une montagne symbolise un gouvernement. La montagne de l'Éternel, c'est le gouvernement de Dieu. Il sera établi ici-bas, et Jésus-Christ lui-même en sera le roi. Le verset mentionne ensuite que cette montagne sera fondée sur le sommet des montagnes, ce qui implique que tous les gouvernements du monde devront se soumettre aux directives émises par le gouvernement de Dieu. Pensez-y. Le Christ va régner sur toute la terre. Tous les chefs de nations, si puissants qu'ils soient, et quelle que soit la taille de leur armée, devront respecter les directives divines données par le Christ. Le Fils de Dieu régnera et il aura préséance sur toute autre autorité. Pouvez-vous imaginer un changement plus fondamental que celui-là dans les affaires du monde? Les gouvernements humains sont actuellement extrêmement limités. Qu'il s'agisse de dictatures corrompues qui utilisent l'intimidation et la peur, ou de démocraties libérales, trop souvent égocentriques et inefficaces, les humains ne peuvent tout simplement pas se gouverner eux-mêmes correctement. Nous le voyons clairement dans toutes les injustices qui se commettent et dans l'effondrement de l'ordre public. L'œuvre à laquelle nous consacrons notre énergie affirme sans hésitation que le monde sera bientôt unifié. Cette transformation ne se fera pas grâce à l'intervention d'une société internationale secrète ni par un mouvement politique quelconque. À chaque élection, des millions de personnes sincères et bien intentionnées espèrent que les choses vont s'améliorer, mais chaque fois, elles sont déçues. Le mieux-être et la paix restent hors de portée. Pourquoi? Les humains ont prouvé qu'ils sont incapables d'y arriver. Il n'existe qu'un seul moyen de connaître une véritable paix mondiale, l'intervention directe du Fils de Dieu, qui règnera personnellement sur toutes les nations de la terre. Il reviendra et gouvernera le monde. Le prophète Ésaïe l'a prédit. Le Christ est un dirigeant plein de bonté et de droiture. Il aime, il pardonne, il est compatissant et pleinement conscient des besoins de tous ceux qui manquent de puissance. Il interviendra cependant avec force pour soumettre ceux qui se livrent au mal et qui oppriment les autres. Sous ses ordres, il aura des dirigeants justes, spécialement formés pour gouverner avec lui. Il a dit à ses disciples, dans Luc 22, à partir du verset 28, « Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Imaginez un monde dirigé par des gouverneurs justes, soucieux de vérité. Il n'y aura pas de corruption, pas de trahison politique, pas de compromis, ni d'accord secret. Tous les adjoints du Christ agiront avec droiture, car ils seront devenus incorruptibles. Demandez notre publication gratuite à ce sujet. Elle décrit ce monde merveilleux qui sera bientôt établi sur terre. Nous sommes destinés à une vie heureuse. Un monde meilleur est à nos portes. Voulez-vous savoir qui fera partie de l'équipe du Christ?
Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez, sans aucune obligation de votre part, notre brochure gratuite « Le merveilleux monde de demain ». Celle-ci contient des informations importantes sur le futur gouvernement mondial du Christ. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Le merveilleux monde de demain. Appelez dès maintenant.
Vous pouvez faire partie de cette équipe de dirigeants justes que le Christ utilisera pour apporter la paix, l'ordre et l'amour sur cette terre. Jésus n'a pas limité cet honneur à ses 12 disciples originaux. La parabole biblique des mines fait clairement référence à Jésus. Elle mentionne qu'un noble était allé dans un pays lointain pour recevoir un royaume. Avant son départ, l'homme avait remis à chacun de ses serviteurs une somme d'argent que ceux-ci devaient faire fructifier. À son retour, il récompensa leur travail. Voyons ce qui est écrit dans Luc 19, versets 16 et 17. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Cela signifie que si nous sommes prêts à nous laisser former maintenant par Jésus-Christ, nous pourrons avoir un impact sur des milliers de personnes au cours de la période de 1000 ans pendant laquelle le Fils de Dieu règnera ici-bas. L'espoir d'un tel avenir peut grandement nous aider à supporter les épreuves et les tests de la vie présente. Selon la prophétie d'Ésaïe, dans le millénium, les lois en vigueur seront justes et équitables. Dans Ésaïe 2, au verset 3, il est rapporté, « Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Sion fait référence à la ville de Jérusalem, la capitale du royaume de Christ. En tant que roi des rois, Jésus décrétera des lois qui seront enseignées dans le monde entier. D'où viendront ces lois? De la Bible, bien sûr, car c'est la parole de l'Éternel, comme le dit Ésaïe. Et quelle loi la Bible enseigne-t-elle? Dans Exode 20, nous trouvons un résumé des 10 lois fondamentales de Dieu. Non pas des milliers de lois consignées dans plusieurs livres, mais 10 lois simples, faciles à comprendre et à retenir. À titre d'exemple, voyons celle mentionnée au verset 12. « Honore ton père et ta mère. » Imaginez comme le monde changerait si ce commandement était enseigné et respecté, si les enfants de toutes les nations et de toutes les cultures étaient encouragés et apprenaient à aimer et à honorer leurs parents. Bien sûr, les enfants sont des enfants. Ils font des erreurs et se comportent mal parfois. Mais ils répondent généralement positivement à des directives fermes, données avec amour et gentillesse. Le monde pourrait être très différent si cette seule loi était adoptée et enseignée à tous les niveaux de la société. Sous le règne du Christ, c'est ce qui se produira. Examinons maintenant cette autre loi faisant partie des 10 commandements. Exode 20, verset 15. « Tu ne déroberas point. » Qu'en serait-il si cette loi était enseignée et appliquée partout? Si chaque gouverneur, chaque juge, chaque maire voyait à ce qu'elle soit respectée et si aucun dirigeant n'était jamais accusé de détourner des fonds publics ou de s'emparer des bénéfices d'une entreprise. Imaginez, si chaque fois qu'un voleur était pris en flagrant délit, il était confronté à une véritable justice, administrée de manière équitable, et si on lui donnait la possibilité de réparer ses torts, faisant en sorte que les victimes soient réellement indemnisées, quel changement cela apporterait? C'est exactement ce qui se produira durant le millénium. Voyons aussi Exode 20, verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Durant le millénium, les habitants de la terre apprendront que chaque septième jour de la semaine est un jour de congé garanti par Dieu. Pas de travail ce jour-là. Les gens pourront se reposer, goûter ce paisible temps d'arrêt et renouveler leurs forces. De nos jours, plusieurs sont stressés par le rythme effréné de la vie. Ils travaillent sans relâche. Ils ne peuvent s'arrêter. Comme prisonniers de la vie, ils deviennent découragés et déprimés, ayant même parfois l'impression d'être submergés de problèmes. L'observance du sabbat, le septième jour, est le remède à cet état de choses. Après 6 jours de création, Dieu a créé le sabbat en se reposant durant ce septième jour. De même, il veut que nous utilisions ce jour précis chaque semaine pour reposer notre corps et notre esprit. Il veut que nous profitions de ce temps pour remplir notre esprit de pensées relatives à sa voie de vie et à sa parole. Ce sera merveilleux quand tous observeront cette loi. Dans le millénium qui approche, ce sera le cas. Les Écritures sont claires et la chose est certaine. Voyez ce que rapporte Ésaïe 66, verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Le sabbat sera observé, de même que les commandements qui interdisent le meurtre, l'adultère, le mensonge et le blasphème. Ces lois apprendront aux gens à aimer Dieu et leur prochain. Après s'être repentis et avoir été baptisés, ils seront pardonnés de leurs péchés passés par le sang précieux de Jésus-Christ. Ils sauront à quel point le Christ les aime et prend soin d'eux. Il leur donnera son esprit, sa puissance, afin qu'ils puissent comprendre la vérité et marcher dans ses voies. Cette période de temps est sur le point de commencer. C'est ce que nous appelons le merveilleux monde de demain. C'est aussi le titre du document gratuit que nous vous offrons aujourd'hui.
Comment vivra-t-on sous un gouvernement dirigé par Dieu? Demandez notre brochure gratuite, Le merveilleux monde de demain. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez la brochure à partir du site Internet. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue Le monde de demain, qui renferme des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant.
Durant le millénaire de paix qui approche, le Fils de Dieu régnera sur la terre. Nous pouvons nous préparer à cette étape en nous engageant dès maintenant à observer les commandements de Dieu. Ce faisant, nous pourrons même être comptés parmi les dirigeants serviteurs qui aideront le Christ à instaurer ce monde de paix. Une paix réelle et durable. Est-ce possible? Peut-on vraiment espérer la fin définitive de toutes les guerres? Depuis plus de 100 ans, le monde tente désespérément d'arrêter ce fléau. La Première Guerre mondiale, la plus coûteuse de l'histoire de l'humanité à cette époque, a fait plus de 20 millions de morts, militaires et civils. Puis, la Société des Nations fut créée en 1920. Installée à Genève, en Suisse, l'organisation était censée être le lieu où les différends internationaux pourraient être résolus. Mais cela ne s'est pas produit. 19 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Elle s'est étendue au monde entier. Des jungles de Birmanie, au désert d'Afrique du Nord, jusqu'aux plages de Normandie. On estime que la Seconde Guerre mondiale a causé la mort de 40 à 50 millions de personnes supplémentaires. Puis, après cette guerre sanglante, une autre organisation internationale a été créée, les Nations Unies. Selon le site Internet de l'ONU, lors de sa création en 1945, au lendemain d'une Seconde Guerre mondiale dévastatrice, l'Organisation des Nations Unies a été dotée, par ses membres fondateurs, d'un objectif prioritaire, le maintien de la paix et de la sécurité. Dans le cadre de 71 missions différentes, elle a envoyé des forces de maintien de la paix partout dans le monde, sans toutefois pouvoir mettre fin aux guerres. Les choses changeront-elles un jour? La Bible l'affirme avec force. Le livre d'Ésaïe rapporte que dans la suite des temps, les armes se tairont. Comment cela va-t-il se produire? Après avoir décrit le gouvernement de Dieu, qui enseignera et fera respecter les lois divines, Ésaïe mentionne au chapitre 2, verset 4, « Il, le Christ, sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre? Quel contraste par rapport à notre époque! Le 29 décembre 2020, le journal lapresse.ca publiait un article au sujet des dépenses militaires de l'année 2019, en citant un rapport préparé par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Sur l'ensemble de l'année, les dépenses militaires se sont élevées à 1 917 milliards de dollars dans le monde. Le budget numéro un reste celui des États-Unis, 732 milliards de dollars. Derrière les États-Unis, suivent la Chine avec 261 milliards de dollars et l'Inde avec 71,1 milliards de dollars. Cela représente près de 2 000 milliards de dollars dépensés en une année pour acheter des armes. C'est énorme! D'autre part, l'agence onusienne FAO évaluait en 2015 que seulement 267 milliards de dollars par année suffiraient à éliminer la faim dans le monde d'ici à 2030. Ainsi, il n'en coûterait que 267 milliards de dollars pour que personne sur toute la planète ne souffre de la faim pendant toute une année. Malheureusement, dans le monde, chaque année, il se dépense près de 8 fois cette somme pour acheter les armes, les chars et les avions qui servent à tuer plutôt qu'à faire vivre. Devant le siège des Nations Unies à New York, il y a une sculpture célèbre, celle d'un homme qui transforme une épée pour en faire un outil agricole. Sur le socle de ce monument sont inscrites les paroles que nous venons de lire dans Ésaïe 2. Les Nations Unies peuvent-elles mettre fin aux guerres? Non, elles ne le peuvent pas. Heureusement, le message d'Ésaïe 2 nous donne un aperçu inspirant et encourageant de l'avenir. La parole de Dieu nous assure que, sous la direction du Fils de Dieu, les guerres cesseront. Certaines nations vont toutefois résister au Christ au début. C'est pourquoi il est dit qu'il sera l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Certains devront apprendre à la dure. Mais avec le temps, la plupart verront l'intérêt de se soumettre à Jésus-Christ et de profiter des bienfaits de la paix. Voyons ce qu'il a lui-même déclaré en commençant son ministère dans Marc 1, 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les propos du prophète Ésaïe, que nous avons vus ensemble aujourd'hui, donnent un aperçu de ce gouvernement mondial glorieux qui sera bientôt établi, non pas dans les cieux, mais ici même sur la terre. Lorsque nous comprenons les changements que Jésus-Christ accomplira lors de son retour pour délivrer notre monde souffrant et troublé, ce message est vraiment une très bonne nouvelle. L'ère du règne du Christ approche. Elle n'est pas loin. Il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il apportera l'intégrité et la justice à l'administration de la terre. Il mettra fin au chaos, à la confusion et à l'insécurité. Il enseignera des lois qui favorisent l'amour et l'harmonie. Et il mettra fin au cycle de guerre et de violence qui afflige ce monde. L'humanité est incapable de résoudre ses problèmes, mais Jésus-Christ le peut, et il le fera, parce qu'il est notre Sauveur, qu'il nous aime et veut que nous soyons heureux. Il gouvernera de la bonne façon. Il prend à cœur nos meilleurs intérêts. Ne l'a-t-il pas déjà prouvé en donnant sa vie pour nous? Nous anticipons avec joie le jour où notre Sauveur, le Fils de Dieu, sera ici, sur cette terre. Nous connaîtrons enfin la paix. Restez à l'écoute. Pour notre court segment, Le monde de demain répond. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station.
Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée Le merveilleux monde de demain. Appelez dès maintenant. Bienvenue. Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. La question d'aujourd'hui, qu'est-ce que le péché impardonnable? dans Marc 3, 28 et 29. « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Ces versets donnent l'impression qu'il existe un péché si terrible qu'il ne pourra jamais être pardonné. Que voulait dire Jésus par l'expression « blasphème contre le Saint-Esprit » Cela peut surprendre, puisque l'apôtre Jean nous dit qu'en raison de la puissance du sacrifice de Christ, il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il nous faut aussi considérer ce que Paul a été inspiré d'écrire concernant le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le châtiment du péché est la mort éternelle. Cette mort éternelle est le résultat final d'un péché non pardonné. Cela nous ramène à la question, y a-t-il un péché que Dieu ne pardonne pas? Si oui, quel est ce péché? Hébreux 10 le définit clairement. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Cela signifie que, si nous péchons volontairement, si nous pratiquons le péché comme mode de vie, sans aucune intention de changer et de nous repentir, et sans chercher le pardon de Dieu, même si nous avons reçu la compréhension, alors ce péché ne sera pas pardonné. Marc montre le lien qui existe entre la repentance et le pardon. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Pour que le péché soit pardonné, la connaissance du péché doit d'abord être révélée à la personne par l'Esprit de Dieu, afin qu'elle sache ce qu'elle fait de mal. Cela doit être suivi du repentir, un changement de comportement et la recherche du pardon divin. Par conséquent, le seul péché qui ne peut être pardonné, le péché impardonnable, c'est celui pour lequel la personne refuse de se repentir et de demander le pardon de Dieu. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules Le Monde de demain répond, visitez notre site internet mondedemain.org ou encore Le Monde de demain répond sur YouTube. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de demain, qui contient des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Notre cours de Bible en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur, est aussi disponible. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.